Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
J'aurais pu commencer par en citer quelques-uns, Wimbledon, Wembley, Indianapolis, Twickenham ou le Parc des Princes, plus proche de chez nous, ces lieux qui résonnent comme des noms de cathédrales pour tous les amoureux du sport. Car ce que nous allons évoquer aujourd'hui renvoie à beaucoup de choses. À l'histoire d'abord, les temples du sport sont des lieux mythiques où s'est écrite la grande histoire. À l'enfance, parfois avec des souvenirs indélébiles qui remontent en apercevant un coin de pelouse, de cours, de terrain ou de circuit. Et enfin, au présent et au futur pour certains qui continuent et continueront d'accueillir des compétitions et des sportives prestigieux. Mais quel est le plus grand, celui qui mérite incontestablement le statut de numéro 1? Difficile de se prononcer, me direz-vous, mais nous allons quand même essayer. Je suis Adrien Yo, vous écoutez le podcast Qui c'est le plus fort? Et nous allons nous interroger aujourd'hui sur le plus grand temple de l'histoire du sport. Pour m'accompagner, trois journalistes de la rédaction d'Eurosport, Maxime Dupuis, Martin Mosnier et Laurent Vernier. Salut à tous.
Salut.
Salut. Salut Adrien.
Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Alors pour commencer, messieurs, quel temple avez-vous choisi de défendre? Maxime, par exemple.
Moi, j'ai choisi le Madison Square Garden.
Laurent?
Wimbledon.
Et Martin?
Le Maracana.
Et pour ma part, je défendrai le circuit du Mans. On va commencer avec toi, Martin.
Ça me va.
Le Maracana au Brésil, un stade mythique s'il en est. Pourquoi ce choix?
Alors, quand j'ai pensé temple du sport, donc il faut que ça ait un côté populaire, il faut que ça ait marqué l'imagination, il faut que ça ait un côté aussi un peu universel, que ce soit un nom qui résonne pour tout le monde, il faut que ce soit mythique. Faut que ça se nourrisse de ce qui s'y est passé dans ce temple-là, mais il faut aussi que ça le transcende. Voilà, moi je pense à la grande histoire. Alors j'ai pensé à, alors parce que ça correspond peut-être aussi à mon histoire personnelle, à voilà, le temple du sport pour moi c'est procession, c'est les stades, voilà. Et bon, j'ai pensé à plein de stades que j'ai vus, Wembley, Highbury, la Bombonera, San Siro. Mais quand je pense temple du sport, je pense Maracana. Parce que c'est le, enfin pour moi, c'est le temple du foot. C'est le temple du Brésil. Le Brésil, c'est le foot. Et le Brésil, c'est le Maracana. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est rien que le nom, rien que la sonorité, Maracana. C'est aussi simple que ça. En plus, avec Laurent, on a eu la chance de le visiter lors de la Coupe du Monde 2014, d'y voir les Bleus se faire sortir par l'Allemagne, d'ailleurs. Mais voilà, ça convoque plein de choses. Ça convoque le Brésil, ça convoque la Seleção, ça convoque aussi l'idée d'un certain football, l'idée d'un certain âge d'or, une légende, parce que le Maracana, moi, je n'ai pas vu beaucoup d'images quand j'étais gamin, notamment quand il faisait 200 000 places, parce que c'est ça aussi, c'est le gigantisme. Il faut que ça ait un côté aussi un peu extraordinaire, qu'on ne voit pas ailleurs. Et donc, c'est quand même un stade à la base de 200 000 places. Alors, je crois qu'officiellement, ce n'est pas 200 000, mais lors de la Coupe du Monde 1950, voilà, y a eu plus de 200 000 personnes à s'entasser dans le Maracana. Voilà, pour moi, c'est un aspect important. C'est aussi l'âme du foot brésilien. Quand on pense au Maracana, on pense évidemment à cette finale de 1950 perdue contre l'Uruguay. Il se raconte d'ailleurs, je crois qu'il y a une légende qui dit qu'il y a deux supporters brésiliens qui se sont suicidés en se jetant dans le Maracana. Cette finale perdue qui s'appelle d'ailleurs le Maracananzo. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Finale perdue face à l'Uruguay, donc en 1950. Voilà, pour moi, ça convoque tout ça. Alors, le problème, c'est qu'avec Laurent, on n'a pas vu le bon Maracana. C'est qu'on n'a pas visité le meilleur Maracana de l'histoire. C'est que c'est un stade qui a énormément changé, qui a énormément évolué. C'est passé de 200 000 à 75 000 places parce que le football d'aujourd'hui n'est plus le football d'hier, parce qu'il y a des normes. Donc, c'est un stade qui est devenu normé. On a supprimé la partie debout, notamment, qui faisait un peu la légende du lieu. malgré tout, quand j'y suis rentré, il y avait des frissons, il y avait tout ce que ça convoque. Je me souviens que de la tribune de presse, on voyait le Corcovado comme ça qui veillait sur ce stade-là. C'est Rio, c'est le Brésil. Et c'est aussi simple que ça, en fait, le Maracana.
Et les favelas moment... aussi.
Et ouais, c'est les favelas qui est juste à côté, oui, ça c'est vrai. Mais un moment, bah, quand j'ai pensé à ce débat, je me suis dit, on va revenir aux bases, en fait. C'est basique. C'est le Brésil, c'est tout, c'est le Maracana. J'ai visité un autre stade qui, pour le coup, lui, baigne encore dans son jus, qui est tout à fait tel qu'il était à la base. C'est le Centenario en Uruguay, à Montevideo, là où a eu lieu la première finale de la Coupe du Monde. Enfin, la première finale de la première Coupe du Monde. Et c'est le seul stade qui a une plaque de la FIFA où c'est marqué Monument du football. C'est le seul. C'est un stade qui n'a pas été touché ou presque. Bah, c'est passé de 100 000 à 75 000. Mais malgré tout, quand on le voit, bah, c'est encore un stade très évasé, avec des sièges en béton. On y accède par des passerelles en bois. Bah, ce que je veux dire, c'est qu'il a gardé toute son âme. Donc, de ce point de vue, de ce strict point de vue, il a un vrai avantage sur le Maracana. Mais je choisis le Maracana pour la simple et bonne raison que d'un côté, il y a l'Uruguay et de l'autre côté, il y a le Brésil. En fait. Et c'est aussi simple que ça. C'est le Maracana, c'est le Brésil, c'est le foot. Pour moi, ça reste le temple du sport.
Alors, je te voyais, Laurent, opiner. Et tu effectivement, toi aussi qui es allé dans le Maracana, tu n'as pas ressenti la même chose, et pas notamment pas l'histoire dont Martin parlait.
J'ai envie de dire oui et non, parce que je peux qu'être d'accord avec ce que dit Martin sur le fait qu'il y a tout ce que porte en lui le Maracana, la charge historique et tout ce qu'il incarne, tout ce qu'il représente. Pour moi, le Maracana aujourd'hui, c'est un peu une métaphore du football brésilien. Alors, on a beaucoup parlé dans qui c'est le plus fort, donc je ne vais pas re-raconter tout ça, mais le football brésilien tel qu'on l'a fantasmé, tel qu'on l'a connu, tel qu'on l'a rêvé quand on était gamin ou plus ou moins jeune, ou avant d'être né pour certains, je pense qu'il est mort, il n'existe plus. Il y aura toujours des très grands joueurs brésiliens, il y aura toujours des grandes équipes du Brésil, mais le football, comme ils disent là-bas, le football brésilien, vraiment, cette âme-là, pour moi, elle n'existe plus pour tout un tas de raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir. Le Maracana, c'est un peu la même chose. C'est l'histoire du foot brésilien, mais tel qu'il est aujourd'hui, c'est vrai que... je me souviens que c'était le capitaine de l'équipe de Russie, Vassili, je crois, Berezovski, qui la Russie avait joué au Maracana en 2014. Et quand on lui avait dit, alors qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes rentré, même pour vous entraîner et tout, et il avait dit, bof, on dirait Loujniki. Alors, ça avait fait un mini scandale là-bas, mais en fait, je vois très bien ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que c'est un très beau stade, le Maracana, tel qu'il a été refait pour la Coupe du Monde 2014. Mais c'est un stade moderne comme il en existe aujourd'hui, des dizaines et des dizaines dans le monde. Et on en parlait tout à l'heure, avant le début de l'émission avec Martin, moi j'ai ressenti cette émotion en dehors du stade, paradoxalement. Quand vous arrivez au Maracana, que vous arrivez par les transports, il y a une gare, et puis quand vous sortez, vous prenez une grande passerelle qui vous amène jusqu'au stade, et là sur cette passerelle, vous voyez le stade, il est posé là, et de l'extérieur, ils ont gardé à peu près l'architecture et l'allure qu'il avait, cette espèce d'un peu de soucoupe volante quand même. Hein. Et là, ça me faisait quelque chose, quoi. J'avais des frissons. Et puis, quand je suis rentré dans le stade, je l'ai trouvé très beau, très moderne, mais je n'ai rien ressenti de particulier. Et ce qui m'avait fait bizarre pendant la Coupe du Monde 2014, où moi j'étais parti notamment pour faire beaucoup de reportages, pour aller sonder un peu l'âme et l'histoire du football brésilien. J'avais vu beaucoup de matchs, j'ai vu je crois 4 ou 5 matchs au Maracana, dont la finale. Mon meilleur souvenir, c'est probablement le 8e de finale entre la Colombie et l'Uruguay, parce que l'ambiance là vraiment était extraordinaire. Le stade était coloré partout, en bleu d'un côté, en jaune de l'autre, et là c'était vraiment fantastique. Mais pendant les 6 ou 7 semaines que j'ai passées au Brésil, l'âme du football brésilien, pour moi, elle était partout, sauf là où il y avait la Coupe du Monde. C'est-à-dire que les stades étaient très grands, très modernes. Mais moi, là où j'ai vraiment ressenti ça, c'est quand je suis allé visiter le parc des Corinthians, qui était le club notamment de Socrates, et où quand je suis allé à São Cristóvão, qui est un petit club, et alors c'est marrant parce que c'est pas très loin du Maracana, et c'est là où a débuté Ronaldo, le Brésilien. Et c'est un stade complètement pourri, vraiment miteux, sous l'autoroute. Mais là, par contre, quand j'étais là, je voyais presque Ronaldo et je ressentais ça, parce que rien n'a changé. Au Maracana, c'est presque en fermant les yeux que je me sentais plus proche de son histoire. Donc, oui, c'est un très beau stade. Incontestablement, ça reste un mythe, une légende. Mais aujourd'hui, la légende, elle tient vraiment au nom, et presque qu'au nom, je trouve.
Est-ce que ce n'est pas peut-être même impossible de continuer à garder une âme d'un stade, d'un lieu, d'un temple du sport, avec les nouvelles normes actuelles? On est obligé de tout moderniser, etc. Et du coup, on perd tout ça.
Oui, je suis d'accord avec ça, parce que pour moi, un stade, c'est un lieu qui a une âme. Et si vous rasez tout, que vous reconstruisez autre chose par-dessus, ce n'est pas parce que vous allez garder le nom que toute la charge émotionnelle et historique du lieu va perdurer. Et le nom, c'est pas tout.
Ouais, et au-delà de ça, le vrai problème, tu le vois à Londres avec les stades. Arsenal a détruit Highbury pour faire l'Emirates. À 15 km de là, il y a Wembley. Bah, pour moi, l'Emirates et Wembley, ce sont les mêmes stades quasiment. Il y a, c'est des couronnes, des stades rouges, on va dire, qui se ressemblent complètement. Donc, c'est très, très difficile de garder l'âme. Et justement, l'erreur, comme tu dis aujourd'hui, ça me fait penser, tu as parlé de circuit tout à l'heure, ça me fait penser au circuit de Formule 1, qui sont tous, entre guillemets, aseptisés pour des raisons valable pour ce qui est de la sécurité, mais ça n'empêche que quand on fait, tu prends l'exemple de Hockenheim, quand tu prends un circuit qui traversait la forêt, qu'on dit aujourd'hui il est plus adapté pour aussi des raisons télévisuelles, c'est sûr que ça pose problème et tu casses un peu ce qui faisait aussi l'originalité et la grandeur de ces enceintes-là, de ces stades-là ou de ces circuits-là.
Est-ce que tu évoquais Wembley juste avant. Est-ce que Wembley, c'est pareil ou il y a quand même encore une petite âme qui a été conservée pour la reconstruction?
Je suis d'accord avec ce qu'a dit Laurent. Alors moi, ce qui est marrant, c'est que la première fois que je suis allé à Wembley, je suis rentré dans le stade sans le voir. Alors je m'explique, il y avait du brouillard. Et vraiment un brouillard, on ne voyait rien du tout. Je me suis retrouvé dans le stade et moi, j'ai toujours regretté de ne pas avoir connu et vu Wembley tel qu'on le connaît. Vous savez, avec la piste cendrée autour, un stade très évasé, très bas, très particulier, qu'on reconnaît entre mille. Et finalement, je me souviens d'être... Mon premier contact avec Wembley, finalement, c'est quand je suis rentré sur la pelouse pour aller voir l'entraînement. C'était une veille de match de l'équipe de France. Et là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose quand même. Je ressentais qu'il y avait quelque chose, mais n'empêche qu'il n'y avait pas cette petite piste cendrée, tout ça. Et comme disait Laurent tout à l'heure, quand j'ai finalement pu voir Wembley de l'extérieur, j'ai vu quoi ? Un très beau stade, très moderne et vraiment stade du 21e siècle. Mais ce qui m'a le plus plu, c'est pas tant les alentours, c'est de marcher autour de Wembley. Et les Anglais sont très bons parce qu'ils savent le faire. Là, on parlera sûrement sur Wimbledon tout à l'heure. Ils savent garder la mémoire quand même de leur lieu, même s'ils modernisent. Et autour de Wembley, un truc que j'ai adoré, ça paraît tout bête, c'est qu'il y a une plaque pour chaque nouvel international anglais. C'est-à-dire que là, vous dites, le type qui a porté le maillot de l'équipe d'Angleterre ne serait-ce que 20 secondes, il a à ce moment-là son nom autour de Wembley. Et je trouve que ça... c'est plutôt classe parce que ça dit quelque chose de leur rapport à l'histoire, comme les statues qu'on peut trouver autour, Bobby Moore, tout ça. C'est il reste ça. Au moins, ils ont ça, mais c'est vrai qu'on peut regretter de perdre ce qu'ils faisaient Wembley, c'est-à-dire l'horloge, tout ce côté un peu particulier qui est perdu aujourd'hui, mais qu'ils arrivent quand même par des petits détails à conserver.
Ils sont forts là-dessus, les Britanniques, pour arriver justement à garder la tradition. Laurent, on va le passer à ton choix, si tu le veux bien, parce que là, pour le coup, on entre dans la plus pure tradition avec Wimbledon. Voilà, le stade où se déroule le tournoi de tennis tous les ans. Là, pour le coup, on ressent, ça respire, ça pue même la tradition.
Oui. Oui, pour moi, en fait, ça me fait un peu penser, je réfléchissais, ce dont on parle, là, c'est un peu la différence entre la beauté et le charme. C'est-à-dire que pour une personne, un homme ou une femme, peu importe, mais moi, je suis peut-être plus sensible parfois au charme. Voilà, il y a un physique qui n'est pas forcément parfait, mais c'est indéfinissable le charme, donc c'est propre au ressenti de chacun. Mais pour moi, c'est ça. Voilà. Et je trouve que Wimbledon a gardé sa beauté tout en conservant son charme. Et pour moi, c'est vraiment le mariage de la tradition sur laquelle on ne s'est pas assis et de la modernité. Et c'est la preuve qu'un temple du sport peut réussir la transition vers le 21e siècle, alors que Wimbledon, c'est un stade qui est encore plus vieux que le Maracana ou que sans doute n'importe quel stade de foot. Hein. À la base, c'était un club de croquet qui a été fondé, je crois, en 1869. Je me trompe peut-être sur la date exacte, mais enfin à peu près à cette période-là. Il n'y avait pas de tennis. C'est quelques années après qu'on a créé les cours de tennis. Et c'est là que c'est devenu le All England Lawn Tennis and Croquet Club.
Oui, c'est ça. Alors, ça reste dans le nom. Ouais.
Voilà,
le nom du croquet reste dans le nom global. Ouais.
Le nom du croquet avait d'ailleurs disparu pendant quelques années à la fin du 19e siècle, quand vraiment le tournoi de tennis est devenu central. Et puis, ils l'ont remis après. Voilà, ça aussi, c'est, je pense qu'ils se sont dit, non, ça fait partie aussi de notre tradition, notre histoire, donc on va le remettre. Donc, c'est le temple du tennis d'abord. Hein. C'est vraiment le lieu incontournable. Pour moi, c'est d'abord un plaisir visuel, Wimbledon, y compris à la télévision. C'est tout bête, hein, mais moi, ces cours complètement immaculés en début de quinzaine, on a presque... On a envie de voir du tennis, mais on aurait presque envie de voir du tennis sans qu'ils abîment ces cours. Parce que c'est tellement beau, c'est tellement magique que je ne ressens pas ça quand je vois un court en ciment ou même en terre battue. Donc ça, c'est quand même vraiment un des grands plaisirs de Wimbledon. Et puis après, c'est un bel endroit. Alors encore une fois, la beauté, c'est très subjectif, mais quand vous vous baladez là-bas, il se passe quelque chose, ça respire le tennis, ça respire la tradition, sans vous écraser. Voilà. C'est vraiment un compromis parfait. Et même les transformations qui ont eu lieu ces 20 dernières années, 15-20 dernières années, évidemment avec le toit à partir de 2009, ça n'a pas dénaturé, je trouve, la beauté et la majestuosité du cours central. La vraie bonne idée aussi pour moi, c'est de ne pas avoir dit quand ils ont refait le stade, ils ne l'ont pas complètement détruit, hein, mais ils l'ont quand même bien éventré pour mettre le toit. Ils auraient pu se dire, on l'a grandi, on passe à 20 000 places. Non, ils ne l'ont pas fait. Et quand vous regardez aujourd'hui des images de Wimbledon d'il y a 30 ans ou d'il y a 50 ans, même s'il y a le toit, le cours central a gardé quand même la même allure, la même architecture. Et ça, c'est quelque chose une chose à laquelle je suis très sensible. Et par exemple, si vous allez à Flushing Meadows, l'endroit est plutôt agréable. C'est un grand parc dans le Queens. Les cours sont grands. Alors, évidemment, le Arthur Ashe est immense. Mais il y a un côté carton-pâte. Moi, ce que j'ai ressenti là-bas, c'était un peu Disneyland du tennis. Quoi. Voilà. Tout fait un peu fake à l'américaine, j'ai presque envie de dire. Alors qu'à Wimbledon, c'est tout le contraire. À Wimbledon, vraiment, l'histoire du tennis est là et vous la ressentez. Et voilà, c'est l'âme dont je parlais. Donc, ce sont des choses qui ne sont pas forcément palpables. Mais je mets quand même au défi qui que ce soit d'aller à Wimbledon et de me dire qu'il ne ressent rien et qu'il ne ressent pas l'histoire du tennis et tout ce que ça a vécu depuis des dizaines et des dizaines d'années.
Maxime, toi, tu as aussi... parcouru le Wimbledon.
Grand amoureux de la capitale anglaise, je suis jamais allé dans Wimbledon, mais je me suis promené autour de Wimbledon. Et je dirais que ça, tu le ressens aussi autour. On sait que les joueurs louent des maisons dans le coin. Bah, on comprend pourquoi, parce qu'il y a ce côté un peu banlieue très chic et très classe, et c'est plutôt sympa. Et justement, ce qui est drôle aussi, quand tu arrives à côté de Wimbledon, de ce que j'ai pu voir, c'est que c'est pas comme tu dis, quand tu es à côté d'Arthur Ashe, tu le vois à 25 km le truc. Là, tu vois un truc très plat, c'est très calme, c'est la volupté anglaise qui est là, et c'est vrai que c'est plutôt sympa. Et moi, ça m'a donné envie, c'est y aller, mais malheureusement, j'étais pas au bon moment. Pour le coup.
La tradition aussi de l'habillement aussi, les joueurs se doivent de rester blancs. Il y a aussi, de ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a aussi la tradition de manger des fraises aussi.
Le dimanche,
ne pas jouer,
dimanche sacré. Moi, ce que j'aime en Wimbledon, c'est justement, c'est que c'est une bulle de résistance en fait, presque. C'est une bulle de résistance du sport marchand, du sport spectacle, du sport marketing, du sport merchandising, appelez ça comme vous voulez. À la base, je suis pas hyper fan moi du conservatisme à tout crin. J'aime bien quand il y a un peu de fantaisie. Mais quand on parle temple du sport, là on est dans un temple, parce que le sport on n'y touche pas en fait. Le sport c'est sacré, les traditions c'est sacré, et voilà, le sport, les traditions et rien d'autre. Tu parlais, Adrien, du fait qu'ils jouent tous en blanc, etc. c'est un petit doigt d'honneur aux équipementiers, quoi. Et ça fait du bien quand le sport reprend un peu ses droits et quand je crois savoir d'ailleurs que les équipementiers, ils s'arrachent un peu les cheveux parce qu'ils peuvent pas vendre leur dernière tenue à Wimbledon. Et voilà, je crois que moi, c'est quelque chose qui me plaît. Comme le dimanche, le fait qu'on joue pas le premier dimanche, à la base, c'est pour que le voisinage soit tranquille. Bah voilà, moi, ça me fait marrer tout ça. C'est quand on parle de temple, voilà, on ne touche pas à ça.
C'est ça. C'est sûr que ça, mais ça, c'est vraiment la tradition du tournoi. Après, je pense que si, je ne pense pas que ça arrivera, mais si dans 30 ans, il joue avec des tenues fluo à Wimbledon, le lieu en lui-même gardera quand même son charme inégalable. Mais je suis d'accord avec ça. Même si je pense qu'ils vont un petit peu loin, là, ils sont devenus très, très rigoristes. Et
avec les semelles, notamment.
Voilà, les semelles, ouais. Le dessous des semelles orange de Federer qui avait été recalé. Ouais. Et Federer avait dit, franchement, moi, j'adore Wimbledon, j'adore la tradition, je suis à fond pour, mais il ne faut pas non plus être plus royaliste que le roi. Et regardez des images de Wimbledon des années 80 jusqu'au début des années 90, il y a de la couleur sur les tenues. Ouais. Et ça ne nuit pas à la tradition. Quand Borg et McEnroe rentrent sur le terrain en 80, ils ont des vestes rouges et bleues. Edberg, quand il gagne en 90, il a une tenue qui est assez colorée. Le blanc devait être dominant. Et moi, j'aimais bien ça. Là, je trouve que c'est presque quand même un petit peu too much. Quoi.
C'était le grand suspense de, je ne sais plus, c'est 89 ou 90, Agassi qui est à Roland avec sa tenue bariolée fluo. Et on se demande s'il va oser la poser à Wimbledon. Et je me souviens que le suspense, c'était de le voir rentrer. Et là, il était arrivé de blanc vêtu. Donc, la face était sauvée.
C'est ça qui est génial. C'est que lui, à l'époque où les joueurs avaient quand même des tenues, certes, à dominante blanche, mais avec des touches de couleur, lui, il était arrivé avec un truc vraiment tout blanc. C'est-à-dire que lui, il avait dit, OK, vous voulez du blanc, je vais mettre du blanc. C'est ça qui était marrant. Et finalement, il a été assez précurseur. Et puis, un petit truc marrant sur Wimbledon, c'est que c'est un vrai club de tennis. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des membres, et je crois qu'il y a entre 300 et 400 membres, donc c'est un club très sélect. Pour pouvoir rentrer, il faut être coopté, je crois, par 4 ou 5 membres déjà donc, dans le club qui vous connaissent depuis au moins, qui doivent attester, qui vous connaissent depuis 3 ou 5 ans, je ne sais plus. Donc c'est vraiment un truc.
Sinon, il faut gagner. Sinon, il faut gagner.
Ça, je ne sais pas ce qui est le plus simple, mais.
Ça, c'est pas de question, ça.
Ouais.
On va faire un podcast. Qu'est-ce qui est le plus simple?
Et puis, il y a des cours en terre battue aussi à Wimbledon. Voilà.
Je ne savais pas ça.
Ouais, parmi les cours qui sont utilisés vraiment par les membres, il y a des cours en dur, il y a des cours en terre battue dite américaine, terre battue grise, et il y a quelques cours en terre battue classique en briques pilées ocre. Voilà.
En parlant d'Amérique. On va traverser l'Atlantique pour parler du choix de Maxime, le Madison Square Garden, la salle mythique au cœur de New York. Toi, Maxime, c'est une salle que tu as fréquentée à plusieurs reprises et tu avais envie de nous en parler.
Non, mais j'ai envie d'en parler.
Surtout les bas-fonds de New York, Maxime.
Ouais, surtout les bas-fonds de New York. Quoi. Non, mais on dit souvent que l'Amérique n'a pas d'histoire, qu'on ne fait pas de sentiments. C'est la vérité parce qu'il n'y a pas un pays dans le monde où on détruit et on construit le plus de salles et plus de stades. Un stade peut avoir une durée de vie de 20 ans à partir du moment où le business dit qu'il faut passer à autre chose, bah finalement, ils n'hésitent pas, ils détruisent. On a tous vu ces vidéos de stades qui sont détruits à la dynamite, qui explosent, qui disparaissent en un claquement de doigts. Et le deuxième claquement de doigts, c'est le nouveau stade derrière. Bah, le Madison Square Garden, c'est une salle qui évolue. Donc, on ne va pas dire qu'elle est dans son jus. C'est pas Montevideo, évidemment. Mais ça reste quand même finalement une forme de poche de résistance parce que c'est une salle auquel finalement on ne touche pas tellement. Et moi, ce qui m'a toujours fasciné au Garden, moi, j'ai eu la chance d'y aller pour la première fois. J'avais 16 ans. C'était en plus la grosse équipe des Knicks. C'était formidable. Et moi, ce qui m'avait marqué, je me rappellerai toujours, c'est que quand on pense à New York, on pense à quoi? On pense à un endroit très rectangulaire. C'est-à-dire, c'est des blocs, des choses carrées, des rectangles, des tours, voilà, tout simplement. Et là, vous avez au milieu de New York, quasiment au cœur même de New York, vous avez une salle qui est ronde. Ça jure dans le paysage, ouais. Mais c'est formidable. Elle est au-dessus d'une gare, c'est Penn Station, qui est un peu aussi le cœur, le moteur aussi de la vie new-yorkaise. Vous avez l'impression d'être dans un endroit où vous n'êtes que des fourmis, tout simplement. Et puis, tout s'arrête quand vous rentrez dans cette salle-là, qui est fascinante parce que justement sa structure ronde, vous la retrouvez à l'intérieur. Regardez le toit du Garden. Le toit du Garden, il est reconnaissable entre mille aussi, avec ces espèces de petites de stries qui partent du milieu. Et voilà. Et puis c'est difficile de raconter, mais vous ressentez quelque chose vraiment, c'est de dire il faut y aller. Moi, quand je pense au Garden, je pense à Sinatra, je pense à tout ça. Ça dépasse même le cadre du sport, tout simplement. Ce n'est pas les Knicks, simplement, parce qu'évidemment, les Knicks, en plus, sportivement, ce n'est quand même pas terrible. Ce n'est pas les Rangers non plus, ça va au-delà de ça. C'est la boxe, c'est Ali Frazier, le premier Ali Frazier, c'est là-bas. C'est presque autant les rendez-vous qu'il y a eu à l'intérieur que la salle en elle-même. C'est des concerts de rock, mais oui, c'est John Lennon qui a joué là-bas. C'est les Stones, c'est U2, c'est tout ça. Vous avez tout là-bas. C'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est the place to be. Il y a un truc qui est fantastique aussi et qui, on va dire, qui doit peser aussi sur les New Yorkais, c'est que finalement, on le voit beaucoup en basket, on dit que c'est la Mecque du basket. Et finalement, ce qui est assez terrible pour les Knicks, qui ne sont pas très bons depuis 20 ans, c'est que la salle motive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un grand joueur qui va là-bas en se disant il faut que je les cartonne, là, tout simplement. Il faut que je marque mon nom. C'est un peu comme Hollywood Boulevard, le Madison Square Garden. Ce n'est pas vos empreintes que vous mettez là-bas, c'est qu'il va falloir faire un carton. C'est vrai pour Jordan, c'est vrai pour LeBron, c'était vrai pour Kobe, c'était vrai pour Stephen Curry. Il faut marquer parce qu'il y a quelque chose en plus. Moi, j'ai eu la chance aussi de me promener dans le Garden en tant que journaliste un soir de match et d'aller visiter les vestiaires. Voilà, c'est formidable. Les vestiaires sont formidables aussi parce qu'ils sont ronds. Il rappelle la salle. Et il y a un truc, alors c'est vrai pour les autres salles NBA aussi, mais c'est encore plus marquant finalement pour le Garden, c'est quand vous êtes dans les vestiaires, vous n'avez pas le droit de prendre de photos. On vous dit non, vous ne prenez pas de photos. Et je trouve que ça rajoute encore plus à la magie d'un lieu qui est vraiment incroyable.
C'est parce que les joueurs sont à poil et qu'il n'y a pas de mix là-bas, les interviews.
Voilà. Non, mais normalement, on doit rentrer quand ils sont un peu plus habillés quand même. J'ai pas fait de mauvaises rencontres en y allant. Mais non, mais c'est. Et je pense que ce qui joue, encore une fois, je pense que ce qui est particulier avec le Garden, je le redis, c'est que c'est la salle, mais c'est aussi New York, c'est aussi sa situation, c'est aussi son architecture. Et je trouve qu'on est vraiment dans le bon équilibre entre la salle historique où il s'est passé des milliards de choses et qui s'est évolué. Moi, la dernière fois que j'y allais, je me souviens, il y avait des travaux. Voilà. On sent qu'ils veulent toujours évoluer. Et je sais que là, je ne sais plus où c'en est d'ailleurs, cette histoire-là avec le Covid, mais il parlait potentiellement, mais ça c'est très américain, de dire, bah, écoutez, si vous ne renouvelez pas le bail, si vous ne payez pas ce qu'il faut, la salle pourrait déménager. Imaginez le Garden qui déménage. Voilà. C'est pratiquement, à mes yeux, peut-être la seule salle NBA aujourd'hui qui ne peut pas bouger. Alors, il y a eu pareil, il y a eu à Boston, ça a bougé le Garden, ils l'ont fait, ils ont osé. Chicago Stadium aussi qui a bougé. Et ça, le Garden, franchement, ça dépasse tellement le cadre simple de la salle que ce serait. C'est quasiment la Statue de la Liberté aussi, tout simplement, à New York. Et à mes yeux, ça ne peut pas bouger.
Ce serait difficile de le bouger déjà.
Ouais, non, place. Non, mais ils iraient, je pense qu'ils iraient en banlieue.
Non, mais
en
de changer voilà. De salle. Ouais. Mais c'est vrai que. Ce qui est marrant, c'est qu'à l'échelle de l'histoire du sport, c'est une salle qui est assez récente hein, dans sa version actuelle. Mais en revanche, à l'échelle de la NBA, c'est un monument préhistorique, le Garden, parce que toutes les salles aujourd'hui sont très récentes, ultra modernes. Et c'est vrai que moi, par exemple, je pleure encore le Chicago Stadium où j'avais eu la chance d'aller quand j'étais gamin, qui sentait la sueur. Et aujourd'hui, voilà, ça sent le propre. Et le Garden, on a envie qu'il reste comme ça. Et c'est vrai que c'est un peu le dernier bastion pour moi. Et c'est une salle mythique. Et c'est marrant ce que tu disais tout à l'heure à propos de Wimbledon, qui se dévoilait que quand on y arrivait. Le Garden, c'est un peu pareil.
Ouais, exactement.
C'est-à-dire que vous vous baladez, vous pouvez être à 100 mètres du Madison Square Garden, mais tout est comme ça à New York. C'est pareil avec l'Empire State Building. Vous marchez, vous le voyez beaucoup de loin, mais plus vous rapprochez, moins vous le voyez. Et puis à un moment donné, vous arrivez devant, vous voyez l'arche à l'Empire State Building, vous réalisez que vous êtes devant. Ben, le Garden, c'est un peu pareil. Vous pouvez, évidemment, ça occupe un immense espace au sol, mais comme il n'est pas très haut, vous ne le voyez pas de très loin, et d'un seul coup, vous voyez que vous êtes devant. Et je trouve que là, pour le coup, pour moi, c'est le contraire du Maracana, c'est-à-dire qu'on ressent beaucoup plus de choses à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et puis, moi, si j'ai un regret quand même pour le Madison Square Garden, c'est que ça reste la salle des Knicks, la salle des Rangers, mais en hockey, en NHL. Mais ça a été vraiment un temple du sport. Maxime a parlé de la boxe. C'était vraiment le lieu où il y avait tous les grands championnats du monde de boxe, en tout cas aux États-Unis. Et puis après, ça a été le temple du tennis, un des temples du tennis, avec le Masters. Pour moi, le Masters de tennis, c'est le Madison Square Garden. Ouais. Et voilà, après, le tournoi est parti en Allemagne. J'avais rien contre Hanovre, mais c'était pas pareil, quoi. c'était pas pareil. Et voilà, c'est dommage que le Garden ait perdu un petit peu. C'était vraiment un lieu multisport. C'est beaucoup moins vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, à partir des années 80, la boxe est plutôt s'est déportée vers l'ouest, vers Las Vegas surtout. Donc, c'est un petit peu la pointe de regret que j'ai, moi, par rapport à cette salle.
Et si vous n'êtes jamais allé à New York, vous allez sur Google Maps, vous regardez d'en haut et le Madison Square Garden, vous le verrez tout de suite. C'est tout simplement seul truc rond qui est quasiment sur Manhattan. Donc, c'est vraiment ça qui
plaisir,
fait
c'est de monter, prendre de la hauteur, monter à l'Empire State ou même à la nouvelle tour dont j'ai oublié le nom.
Le One World.
One World,
voilà. Et même si elle est un petit peu plus loin, moi, quand je suis monté, on le voit, le Garden, quand même. Et c'est vrai qu'il faut l'eau de haut parce que, comme dit Maxime, on le repère direct, cette espèce de grosse pièce là au milieu de toute ronde, au milieu de tout le reste.
On pourrait faire un guide de voyage ici.
C'est
donne
ça.
Nos conseils, tout ça. Et non, mais pour conclure sur l'histoire des salles américaines et des salles NBA, moi j'ai eu la chance d'en voir des nouvelles qui sont très belles. La salle d'Orlando est formidable. Brooklyn, elle est formidable aussi. C'est des stades qui sont faits pour le sport moderne. Mais il n'y a pas ce charme-là. Pareil que j'avais ressenti. Moi, je ne suis pas allé dans la nouvelle salle des Warriors, l'Oracle Arena. Mm-hmm. C'est l'ancienne l'Oracle Arena, le Chase Center. Mais j'ai fait l'Oracle Arena avant la destruction. Et moi, c'est un truc tout bête qui m'avait fasciné. C'est que les couloirs, vous marchiez sur de la moquette. C'est absolument pas le 21e siècle, ça. Mais ils avaient gardé ça. Et c'est aussi ça, le jus, c'est de marcher dans des couloirs sur de la moquette, qui est le truc le plus compliqué à nettoyer. D'ailleurs, on fera sûrement un site aussi, un podcast sur les nettoyages au sol. Mais c'est vrai que c'est incroyable de se dire ça. Et c'est le truc qui m'avait choqué. Je me dis, mais je suis en train de marcher sur la moquette. Voilà.
Bah moi, je vais vous emmener à un endroit qui est un peu moins moquette et qui est un peu moins ville. C'est du côté de la Sarthe. Alors là, pour le coup, c'est plutôt la pleine campagne avec le circuit du Mans.
François Fillon.
Pierre Fillon, d'ailleurs, qui est le président de la CO qui dirige le circuit, qui est son frère. Là, il n'y en a pas beaucoup en France, des temples du sport, mais là, pour le coup, c'en est un mythique, le circuit de la Sarthe, qui s'appelle d'ailleurs. C'est un circuit qui est presque centenaire. Hein, il a été créé en 1923. Et puis là, pour le coup, en termes d'histoire, il y a plein de choses. Déjà, il y a la longueur du circuit. Un circuit qui fait plus de 13 km, c'est quand même assez rare pour être souligné. Maxime, tu parlais tout à l'heure des anciens circuits. Là, pour le coup, on est sur un ancien circuit, mais qui a su conserver son tracé ancien, même s'il y a eu des modifications. Mais en tout cas, dans sa longueur, on garde quelque chose d'assez différent de ce qu'on peut voir aujourd'hui, notamment en Formule 1. C'est un circuit semi-permanent. Et au-delà de ça, c'est des noms mythiques, c'est Mulsanne, c'est les virages Porsche, c'est les lignes droites des Hunaudières, et puis c'est l'histoire de grands constructeurs. On a Porsche, on a Audi, on a eu Peugeot, on a vraiment des batailles homériques. Il y a eu pas mal d'accidents aussi mortels. Enfin, tout ça, ça fait un tout qui fait que le circuit du Mans. Et au sport automobile, alors il y en a plusieurs des circuits de sport automobile qui sont mythiques, mais c'est vrai que Le Mans fait partie de ces 4-5 circuits dans le monde qui ont une place à part. Moi, j'ai choisi celui-ci parce qu'il y a effectivement ce côté aussi un petit peu Madeleine de Proust. Moi, j'y allais plus jeune, et Le Mans, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui en parlent comme ça, en disant moi j'y allais avec mon père quand j'étais jeune. Il y a ce petit côté un petit peu nostalgie et qu'on, alors même si aujourd'hui l'intérêt de la course ces dernières années un peu diminué avec le retrait de grands constructeurs, on ressent quand même toujours ce côté spécial. On s'y rend un peu comme un pèlerinage. Il y a une fête foraine, il y a un concert souvent le samedi soir. Donc on y va pour voir la course, mais on y va aussi pour vivre une expérience qui commence d'ailleurs bien avant le début de la course le samedi, hein, parce que tout au long de la semaine, il y a les vérifications, il y a le pesage, il y a la parade des pilotes. Ça, c'est incroyable, les pilotes qui viennent parader au cœur de la ville. On parle souvent des sportifs qui sont inaccessibles. Là, pour le coup, on a des grands champions de sport automobile qu'on peut presque toucher, on peut leur demander des autographes, et c'est compris, disons, dans le package, j'allais dire presque. On peut les côtoyer. Et voyez, il y a cette proximité qui est autorisée par cette épreuve d'endurance. Le 24 heures du Mans, c'est mythique, la durée est 24 heures. Vous vous rendez compte, on fait une course. Donc pour moi, c'est vraiment un temple du sport automobile. il y en a d'autres. Hein. On peut parler d'Indianapolis, on peut parler de Monza, on peut parler de Silverstone, de Suzuka. Stéphane Vrigneux, notre collègue, nous parlerait des cinq plus grands circuits dans le monde, en incluant Monaco également. Mais voilà, le Mans, il a une place particulière, je trouve. Et en plus, il est en France. Et des temples du sport en France, il n'y en a pas tant que ça.
Non, ça, il n'y en a pas tant que ça. Ça
c'est vrai.
Mais aussi parce qu'on a raté ce qui devait être le temple du sport en France. Où il y a eu quand même une finale de Coupe du Monde, où il y aura des JO dans peu de temps. Voilà, ça symbolise un peu le Stade de France, il symbolise un peu presque le manque de culture sport en France. Il est raté. Il est raté pour moi dans l'architecture, il est raté dans le nom, Stade de France.
Dans l'architecture, t'es dur. En tout cas, c'est un peu comme le Maracanã. Extérieurement, moi, je le trouve magnifique.
Mais tu vois, il n'y a pas d'âme, quoi. Il n'y a pas de.
Ça, c'est sûr. Ouais.
Il y a. Voilà.
Des stades de foot de 80 000 places aujourd'hui avec une âme, il n'y en a pas beaucoup. Hein.
Un cas d'une âme, quand même, c'est le Parc des Princes en France. Il s'est passé quand même de nombreux événements, tournois de destination, des matchs de l'équipe de France.
Mais il est beau au niveau le Parc des Princes, on en parlait de l'architecture. C'est l'architecture qui rend qu'il est exceptionnel. Vous passez sous le périph, sur le périph et vous passez sous le Parc des Princes, vous le reconnaissez. Voilà, il y a un vrai choix qui a été fait. Et le Stade de France, moi je suis d'accord avec Laurent sur l'architecture. Tu reconnais de loin, tu le vois. Moi je me souviens des deux finalistes à l'époque quand il fallait construire le Stade de France. Il y avait ce stade, cette espèce de soucoupe ou un stade très carré. Je ne me souviens plus qui était l'autre architecte, mais je me disais. Ah, faut pas prendre celui-là, c'est un stade anglais. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ce stade-là, c'était les stades à la mode à l'époque, comme Anfield, tout ça. Et je me disais, si on fait ça, on rentre trop dans le rang. Et finalement, je trouve qu'ils ont pris le bon choix. Après, pour ce qui est, et je suis d'accord avec Martin aussi là-dessus, il a pris un énorme coup de vieux à partir de 2006. C'est-à-dire que, en fait, je pense que malheureusement, on a été un peu trop minimaliste sur ce qu'on a voulu faire. Sont arrivés les stades allemands, Gelsenkirchen, tous les stades pour la Coupe du Monde 2006. Et là, on s'est dit, waouh, là, il a pris un méchant coup dans la tronche. Mais c'est aussi lié à la façon dont on conçoit les stades. Et c'est aussi lié, je pense, à notre culture du sport. La France ne reste pas tout sauf un pays de sport, donc ça correspond à ça, voilà.
Ouais, mais chance finalement c'est d'avoir il ressemble pas justement à tous les autres nouveaux stades qui ont été faits les 20 ans suivants, et finalement je trouve que ce qui faisait sa faiblesse il y a 20 ans fait presque sa force aujourd'hui. Il est reconnaissable, alors que moi je le trouvais, je trouve pas que ce soit un beau stade. Mais au moins, il est un peu différent de tous les stades qui ont été construits depuis 20 ans, qui, à de très rares exceptions près, se ressemblent tous quand même.
Et quant au nom, à l'époque, c'était, je crois que c'est Bernard Pivot qui dirigeait l'espèce de panel. Il y avait Stade Michel Platini qui aurait été formidable, mais Platini ne voulait pas. Sinon, il fallait taper dans le François Mitterrand, un truc comme ça, il venait de mourir. Enfin, marquer le coup comme l'aéroport Charles de Gaulle, avoir quelque chose qui représente quelque chose. Alors, je sais que François Mitterrand, ça pouvait être clivant, mais n'empêche que si on veut donner du sens à un stade, à l'histoire, bah, il faut aller taper sur les grands personnages de l'État, tout simplement.
Et en France, je ne sais pas, si on parle de temple du sport, pour moi, oui, le Parc des Princes, l'Alpe d'Huez aussi, quand même.
Ouais.
Et puis, il y a des salles aussi, quand même, qui sont mythiques à l'échelle du sport français, pas à l'échelle du sport européen ou mondial, évidemment. Et même des stades, je pense à Mayol en rugby, même le Vélodrome, même Geoffroy Guichard, il y a quand même des stades qui portent une histoire et qui sont des temples du sport français. Mais après, c'est certain qu'on n'est pas sur des choses comparables au Maracana ou au Madison Square Garden ou même à Wimbledon. Roland-Garros, c'est quand même un temple du sport. Hein. C'est un stade qui va bientôt être centenaire. Et qui a une très forte charge historique, c'est son plus gros atout aujourd'hui. Et si la Fédération française a décidé de rester là où elle est, c'était aussi pour ne pas se couper de cette histoire-là. Donc Roland-Garros fait partie quand même. On a un des quatre tournois du Grand Chelem, et c'est vraiment un des temples du tennis. C'est pas Wimbledon, mais pour moi, ça a beaucoup plus de charme, par exemple, que Flushing Meadows, même si c'est moins pratique.
Mais c'est fascinant, c'est ce que tu disais là sur l'Alpe d'Huez ou Le Mans. C'est marrant, ces temples du sport qui sont finalement ouverts. Qu'on ressent quand on y va. Alors, je ne suis jamais allé au Mans pour les 24 heures. Je me souviens avoir eu la chance de me promener sur le circuit Jacques Villeneuve à Montréal. quand vous arrivez à la fin sur la chicane et que vous voyez le mur, le fameux Bienvenue au Québec qui est à droite, sur lequel plusieurs pilotes se sont déjà mangé le museau, et ben, il y a quelque chose. Voilà. C'est difficilement définissable parce que c'est quelque chose d'ouvert. Il n'y a pas les tribunes, il n'y a personne, mais n'empêche que vous ressentez un peu le poids de l'histoire et c'est ça le plus difficile à ressentir. Moi, par exemple, on parlait tout à l'heure des stades qu'on a visités où j'espérais ressentir quelque chose. L'Ellis Park à Johannesburg, ben, il m'a manqué quelque chose. Je me disais, alors je ne saurais pas dire pourquoi, je me disais c'est la Coupe du monde de rugby 95, c'est Nelson Mandela, c'est tout ça, et ben, je n'ai pas ressenti quelque chose, alors que le stade, pour le coup, est toujours un stade fait de briques, qui n'avait pas trop modernisé à l'époque. Mais n'empêche, voilà, il y a un petit quelque chose qui est indéfinissable, et c'est peut-être ça qui fait la grandeur de ces enceintes-là, c'est le truc qu'on n'arrive pas à définir, mais qu'on ressent quand on y va.
Et pour moi, il y a trois types de temples. Il y a les temples qui sont construits des vrais stades, ou des vraies salles. Il y a les temples qui utilisent des milieux urbains, type le circuit de Monaco, ou tu parlais du circuit Gilles Villeneuve à Montréal, Maxime. Et puis, il y a les temples du sport qui sont 100% naturels. Là, c'est encore autre chose, parce que Monaco, dans 100 ans, peut-être qu'on aura détruit le virage du Loeuf pour faire une autre route, j'en sais rien. En revanche, l'Alpe d'Huez, globalement, une montagne, la Streif en Autriche, le temple du ski, bon, ça peut bouger, mais ces temples-là ont quand même un côté beaucoup plus immuable qu'un stade. Et on l'a vu, hein, un stade, ça a une durée de vie quand même relativement limitée finalement. Et encore plus aujourd'hui, où les exigences modernes, technologiques, de confort, réduisent encore la durée de vie des plus grands stades. Donc finalement, ces temples naturels, c'est peut-être eux qui, même s'ils ne sont pas destinés au sport à la base, c'est le sport qui y est venu, c'est peut-être eux qui ont dont on pourra encore reparler dans 30, 40, 50 ou 100 ans et qui n'auront pas bougé d'un iota.
Et pas perdu de leur attrait.
Si, j'ai envie de vous poser une dernière question, messieurs. Si vous deviez choisir un temple du sport que vous n'avez pas visité, mais que vous voudriez absolument voir avant de mourir, ce serait lequel ?
Moi, Wimbledon. Sans doute les...
Moi, ce serait Wimbledon aussi. Moi, ce serait Wimbledon.
Mais moi, ce serait l'Eden Park d'Auckland.
Et toi, Maxime ?
Il y a Wimbledon, mais j'aimerais bien voir quand même. On en a parlé très vite, je crois que c'est Laurent qu'on a parlé au début, le stade Aztec de Mexico. Je ne sais pas, il y a quelque chose. Alors, c'est lié à la Coupe du monde de 86, à 70. J'ai l'impression qu'on ne peut pas faire les plus belles images possibles que dans ce stade-là. Il y a quelque chose, une atmosphère, voilà, j'aimerais bien voir. Et il y a un autre stade que j'aimerais bien voir parce que je trouve que, alors c'est moins, on va dire, c'est un peu moins, comment dire, prestigieux, mais ça correspond à une ville, à Los Angeles. Je trouve que Los Angeles a une lumière jaune, etc. Et j'ai l'impression que j'avais retrouvé ça dans ce Rose Bowl de Pasadena en le voyant. Et j'aimerais bien le voir rien que pour ça, pour voir si l'impression visuelle qu'on a à la télévision, pour le coup, elle se retrouve justement quand on se retrouve dans cette enceinte-là.
Il c'est est beaucoup plus impressionnant à la télé qu'en vrai.
Ouais, mais je ne l'ai pas vu. Moi, je suis allé à Los Angeles, mais je n'ai pas vu le... Il semble très évasé. Justement, quand on voit l'image d'en haut, c'est quelque chose d'hyper large. J'ai l'impression presque qu'il est plat.
Et ça fait partie de ces... Oui, et ça fait partie de ces stades qui sont vraiment très impressionnants, pleins. Beaucoup plus que vides. Il y a des stades qui peuvent vraiment vous en mettre plein la vue, même quand ils sont vides. Je trouve que le Rose Bowl, c'est un peu le contraire. Voilà, quand il est plein, c'est vraiment très, très impressionnant. Mais vide, et même du mal à croire qu'on puisse mettre quasiment 100 000 personnes ici.
Merci messieurs d'avoir participé à ce podcast très instructif. Ça nous a, comme tu disais Maxime, donné un petit avant-goût, un petit guide de voyage pour choisir ses prochaines vacances.
Quand encore faut-il voyager.
Pour voyager. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut messieurs.
Salut.
Salut. Salut.